www.libradio.org. La station debout.
Allez, on passe au livre. Alors, ça marche pour toi ?
Ça marche.
Kaïm Nissim, un écologiste insoumis, paru donc aux éditions Slatkin à Genève en mars 2018. Quelques mots de Kaïm. Donc, né en 1949 à Jérusalem, tu l'as dit, et on le répète, il décide de mourir le 11 avril 2017 par l'aide au suicide, donc via Exit, qui est légal en Suisse. Toute une vie d'activiste radical écologiste, mais pas que, et tu l'as également déjà mentionné, plusieurs vies. Alors, raconte-nous un petit peu, déjà, comment s'est passée cette rencontre, comment as-tu accosté le personnage, dans quelles circonstances ?
Bah je dînais avec une amie qui dont c'est la meilleure amie, et puis Kaïm est arrivé et on a été présentés. Et il m'a tendu son bouquin et il m'a dit rappelle-moi, on va se balader.
Ouais, alors voilà, de manière assez naturelle, quoi. C'est ça qui est
tout
intéressant.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
Alors dans ton esprit, est-ce qu'il y avait déjà là l'idée de lui consacrer une biographie, ou est-ce que c'est
dans un second temps
que cette idée t'est venue?
On parle là de 2006 et on est devenus amis. On a passé pas mal de temps à discuter, notamment d'écologie, de toute une série de contextes et de projets, etc. Et puis finalement, il est arrivé à son travail d'écriture, à lui, et puis à ses grandes questions sur OK, je commence à être malade, j'ai un Parkinson déclaré, comment je vis avec ça, comment je me projette, il se projetait de moins en moins, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je laisse, Et donc ce travail-là m'a amené à l'idée de la biographie par la rencontre de Jean qui m'a présenté sa collection.
Très bien. Alors, j'aimerais que tu nous dises en quelques mots, qui est-il pour toi, Kaïm Nissim? C'est une personnalité complexe, singulière, clairement. Voudrais-tu nous en dire un petit peu plus?
Oui, je peux surtout dire qu'il faut lire le bouquin, quoi.
Non, mais absolument.
Kaïm, non, mais je peux quand même donner quelques éléments. Kaïm, c'est effectivement, je pense, une des personnalités les plus complexes que j'ai été amenée à rencontrer jusqu'ici dans ma vie. C'est quelqu'un qui était effectivement assez versatile. Alors, quand je dis versatile, c'est surtout habité par le doute, hein, mais le doute au sens scientifique du terme, c'est-à-dire de toujours chercher quelque part, être dans une forme de recherche de vérité, quoi. Et c'est aussi le fruit de la Shoah, Kaïm, hein, parce que ses parents se rencontrent dans leur fuite de Thessalonique, au moment où la ville est envahie par les nazis, et il fuit clandestinement vers Jérusalem, vers Israël, et ses parents se rencontrent à ce moment-là. Donc, ils arrivent à Jérusalem, ils s'installent, et à peine quelques années plus tard, Kaïm naît. Donc, Kaïm, c'est quelqu'un qui a été profondément, je pense, habité par, évidemment, son origine familiale, son histoire, parce que ses parents, en fait, ont vu leur monde à eux littéralement disparaître, être rasé de la carte. Les chiffres de déportation de Thessalonique, du quartier juif de Thessalonique sont monstrueux, quoi. Enfin, je veux dire, les parents de Kaïm ont totalement perdu le monde dans lequel ils ont vécu. Donc, quelque part, il y a quelque chose de très fort en Kaïm de tu participeras à reconstruire ou à construire un monde plus juste. Et ça, et sa sœur aussi d'ailleurs. Ce sont deux personnes qui sont très fortement, je pense, marquées, quoi, par l'héritage familial.
Ouais. Alors on l'a dit, c'est clairement quelqu'un qui a fait preuve d'un engagement constant et tout au long de sa vie, notamment un écologiste insoumis. Et notamment en anti-nucléaire. Comment est-ce que sa trajectoire, selon toi, l'a amené à cet engagement-là plutôt qu'un autre? Est-ce que c'était parce que, pour lui, c'était quelque chose qui englobait peut-être beaucoup plus de notions que la simple écologie? Ou raconte-nous un petit peu en quoi consistait son engagement.
D'abord, il faut quand même, tu vois, préciser que quand il a 20 ans, on est en 69, l'écologie est balbutiante, en tout cas comme science sociale, c'est-à-dire comme comme doctrine politique, tu vois. Le rapport de Meadows, c'est 72. Enfin, en fait, la question écologique, elle est encore vraiment embryonnaire à ce moment-là. Donc, en fait, lui, il arrive, il est assez bon à l'école, déjà. Il arrive à 11 ans à Genève. Et puis, il est assez, voilà, il passe tout droit, le collège, il est à Calvin, etc. Il fait des études d'ingénieur parce que c'est celle qu'il choisit. Il est assez bon en maths. Il n'y a pas beaucoup de questionnements sur ses études. Ça lui semble assez, voilà, évident que ce sera ça. Il en a parlé avec beaucoup de facilité. C'était visiblement pas du tout un domaine pour... Tu vois, où il a beaucoup bossé, quoi. Ça allait à peu près tout seul. Et du coup, il arrive dans le courant de la vingtaine avec un savoir qui lui permet d'abord de savoir construire techniquement un certain nombre de choses. Donc, il fait un peu de micro-technique. Tout à coup, il sait comment construire une radio, quoi, quelque chose comme ça. Puis, il se dit, ah, mais je pourrais aider les militants anti-Pinochet à se relier entre eux grâce à une radio. Bon, voilà. Il y a des histoires comme ça. Donc, pour te dire, si tu veux, il a surtout un fort sentiment et besoin de justice sociale, ça c'est sûr, un fort, fort, fort sentiment d'injustice, d'inégalité dans le monde. Il fait un voyage en Inde avec son meilleur ami, ils y vont en stop, ils vivent l'Inde et le vide des étalages de magasins, quoi, à l'époque. Et donc, il est très marqué, en fait, par les inégalités sociales et puis, voilà, ce qu'il découvre, le monde qu'il découvre. Et puis, avec ses études d'ingénieur, bon, voilà, il acquiert une connaissance qui va lui permettre d'envisager le nucléaire, quoi, qui, à l'époque, est le mouvement qui commence à prendre. Parce que, évidemment, que les pays occidentaux développent le nucléaire à mort. Et puis qu'il y a ce discours tout à la science, donc il commence à être intéressé par toute une série d'auteurs qui remettent en cause un petit peu, tu vois, la toute-puissance de la science, qui parle de scientisme justement, et puis Georgescu, Ruegel, qui vient aussi du domaine de la physique, quoi. Et tout ça pour te dire que du coup, l'engagement antinucléaire, il est lié à ce qu'il a appris, puis à son chemin de formation.
Ouais, ouais. Et que c'est un tout qui englobe, comme on l'a dit, qui englobe beaucoup de choses, la justice sociale. Enfin, c'est extrêmement génial d'entendre ça maintenant, parce qu'effectivement, maintenant, on voit ces mouvements de jeunes qui convergent et puis qui lient naturellement justice sociale et justice climatique. Mais effectivement, si on contextualise l'aventure, la vie de Kaïm Nissim, eh bien, comme tu l'as dit, l'écologie politique était naissante. Sais-tu s'il s'est inspiré, par exemple, d'auteurs comme Élisée Reclus? Est-ce qu'il avait également un savoir théorique, ou est-ce qu'il versait plus dans l'action et les choses concrètes?
Non, il a toute une série de références. C'est une partie du texte. Je reviens sur un peu les auteurs phares qui a marqué sa pensée politique.
Ah, très bien. Donc ça, à découvrir dans le livre. Très bien, très bien.
Ouais.
Alors là, on a parlé un petit peu du rapport au monde, à autrui, de Kaïm Nissim. Quel était son rapport à la politique institutionnelle, j'ai envie de dire, parce que lui-même... D'ailleurs, il en a démissionné. Voilà, à un moment donné, il démissionne, mais après trois législatures au Grand Conseil Genevois.
Non, mais attends, ça c'est vraiment plus tard. Hein. Mm-hmm. D'abord, il est dans tous les mouvements, je dirais, d'action directe.
Ouais. Le collectif du Ramoneur.
Ah, ça c'est bien après aussi.
Ah, c'est bien après.
Ouais, tu vois, les quand il commence un peu à militer après avoir terminé ses études polytechnique, quoi, de physique, il se rend compte en fait qu'il y a deux trois trucs qui vont vraiment pas. Il découvre l'obsolescence programmée dans le cadre d'un premier job. il est très touché par le rapport halte à la croissance dont il abonde de toutes les thèses, quoi. Et du coup, voilà, il commence d'abord par être assez militant dans le milieu antinucléaire et à mettre en priorité l'action directe plutôt que la récolte de signatures pour des pétitions, tu vois. Et donc, il fait partie des occupations à Kaiseraugst, il mobilise, il organise, il est très impliqué aussi dans la première grande mobilisation, manifestation contre la construction de Crémalville.
Sur laquelle on va revenir, bien entendu.
Et en même temps, ce qui va l'amener, si tu veux, à la politique institutionnelle, c'est que il n'aime pas les chapelles. Donc lui, il a besoin de l'action parce que c'est comme ça qu'il se sent le plus utile, si tu veux. Et en même temps, il rencontre et il apprécie les gens qui récoltent les signatures aussi. Et il découvre les gens qui luttent contre un projet de centrale nucléaire à Verbois, sur le canton de Genève, qui s'est regroupé en un petit comité, qui propose des pétitions aux gens pour s'opposer au projet. Et il fait la rencontre de Robert Kramer, futur ministre écolo. Il fait la rencontre de Sylvie Loyon-Berger, qui a été aussi députée et puis présidente des Verts plusieurs fois, sauf erreur. Oui. Et en fait, il n'aime pas les chapelles, quoi. Ce qui veut dire qu'il apprécie autant le travail, je dirais, qui mène vers l'institution, parce que c'est du travail qui s'adresse à l'institution, tu vois, que ce soit des pétitions ou des initiatives populaires. Mais il fait aussi partie des milieux, voilà, où l'action est plus directe.
Radicale, oui, plus directe. D'ailleurs,
exactement.
Ouais, on va y venir. Juste le Ramoneur, son activité au sein du collectif du Ramoneur, ça c'était à quel moment, quelle année?
Alors ça, c'est bien après. Hein.
C'est bien après, d'accord.
Ouais. Donc on peut peut-être juste décrire ce que c'est, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait.
Absolument.
Finalement.
Ouais. Mais je voulais aller dans justement un petit peu chronologiquement.
Ouais, très bien. Alors on suit la chronologie.
Voilà. Alors en fait, je voulais qu'on s'arrête tout de même à cet épisode de 82. Mm-hmm. Alors je cite hein, le 18 janvier 1982, Nissim tire 5 roquettes sur la centrale nucléaire Superphénix, alors encore en construction. Seules 2 de ces roquettes touchent la structure et causent des dommages, mais elles manquent tout le cœur du réacteur encore vide de combustible. J'avais une citation que je voulais énoncer. Où, c'est tellement jolie citation, Onissim dit, ben voilà, c'était un acte non violent. Mmh. Je ne la retrouve plus maintenant, je vais la retrouver tout à l'heure, mais voilà. Je sais qu'il peut paraître bizarre de considérer les roquettes comme un moyen d'action non violent. Pourtant, nous avons pris toutes les précautions imaginables pour être bien sûr qu'aucun ouvrier ne risquait d'être touché. Nous avons donc commis un attentat non violent. Ça en dit long, je trouve, sur cette radicalité, cette volonté d'action directe et en même temps cette sensibilité toujours présente de ne pas faire de mal.
Mmh. Ouais, ça, c'était très, très, très présent chez lui. Il a été vraiment jusqu'au bout très habité par la question de la violence, la non-violence. D'ailleurs, il en a fait une discussion publique peut-être 2 mois avant son décès. C'était une ligne, quoi. C'était une ligne sur laquelle il a longtemps, autour de laquelle il a longtemps tourné, tu vois. Ouais. Et voilà, l'idée, c'était évidemment d'être le plus efficace possible du point de vue de l'action, tout en ne touchant jamais à la vie et en réduisant tous les risques possibles et de manière vraiment professionnelle, quoi. Franchement,
ouais, tout à fait.
Manière dont il me décrivait la préparation des actions, c'était des mois et des mois de préparation.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez justement échangé par rapport à ce 18 janvier 82? Qu'est-ce qui lui a pris et qu'est-ce qu'il en a retenu?
D'abord, c'était un peu le fait de plusieurs années, en fait, hein, de tentatives de sabotage. d'abord de lignes électriques, et puis de fil en aiguille, en fait, est arrivé cet attentat ou coup le plus gros qu'il ait fait et qu'il a avoué publiquement 20 ans après qu'il l'avait fait, contre le chantier de Crémalville, contre lequel effectivement il se battait depuis des années.
Qu'est-ce qui lui en est resté ? Est-ce que voilà, quand vous en avez reparlé ensemble, est-ce qu'il t'a dit eh bien je le referai ? Est-ce que ou alors est-ce que stratégiquement c'était peut-être pas la meilleure chose à faire ? Enfin voilà, est-ce que ou au contraire est-ce qu'il dit ben oui effectivement c'est peut-être quelque chose qui à laquelle il faut penser. Encore, ça c'est le premier volet de la question. Et puis, si j'ai bien compris, ça a créé également certains contacts parce que il me semble-t-il que le matériel qu'il a pu obtenir, donc c'est un lance-roquettes, un RPG-7, il l'a obtenu en passant par la fraction armée rouge, si j'ai bien compris, et également les cellules communistes combattantes belges. Est-ce à dire qu'il avait ces contacts-là et que ben ils se sont rencontrés ?
Oui, alors il raconte hein, ce voyage ouais, où il a ramené l'arme. C'était qui a été organisé pendant des mois et des mois. Et puis alors pour le premier volet de ta question, il était très habité par à nouveau hein, l'action directe, l'action radicale. Il avait par exemple participé encore dernièrement à Ende Gelände.
Ende Gelände, bien sûr, on en a fait une interview d'ailleurs. Oui, tout à fait.
Voilà. Donc il avait participé à une action de Ende Gelände qui empêche en fait des transferts de marchandises, sauf erreur de ma part, liées au charbon.
Tout à fait, ils empêchent également l'extraction et la disparition de forêts par ailleurs millénaires pour aller en extraire la lignite. Ouais.
Donc en fait, il était très animé quoi, par la question de l'action directe. Pour lui, c'était vraiment la meilleure manière d'agir et c'était vraiment le mécanisme de désobéissance civile, tu vois, c'est-à-dire que vraiment collectivement réussir à être à créer un rapport de force où on va physiquement empêcher quelque chose qu'on ne veut pas voir se déployer, ça c'était vraiment pour lui le sommet des moyens à la disposition des militants. Et donc il a toujours travaillé dans cette recherche d'être le plus efficace possible dans l'action par rapport à cette limite de violence non violence qui évidemment parfois tu vois quoi a pris des proportions dingues parce que si c'est extrêmement violent de tirer au lance-roquettes contre un chantier d'une centrale nucléaire, ma foi, c'est une arme. Et puis, en même temps, la limite qu'il avait de manière extrêmement claire, et c'était vraiment la différence entre le matériel, le sabotage, et puis la vie humaine qui était intouchable.
Ouais. Pour le deuxième volet, est-ce que tu souhaiterais apporter quelques éléments de réponse concernant ses relations avec ses contacts, à tout le moins, avec la fraction armée rouge et les cellules communistes combattantes ?
Alors ça, c'était le fait de l'époque. C'était le fait aussi de plusieurs personnes. Hein. Tout ça, je le raconte dans le bouquin. Je suis allée aussi faire un certain nombre d'entretiens pour cette partie-là. Et donc, il n'a pas participé à l'ensemble de la mise en lien et du rapprochement pour obtenir l'arme. Il est allé la chercher, effectivement, avec une amie militante. Il en parle d'ailleurs avec des... Il en parlait, pardon, avec des yeux pleins de lumière parce que il avait des... Je sais pas très bien si c'était de l'amour ou du désir pour la personne avec qui il est monté en Belgique. Et tout ça, effectivement, est abondamment raconté dans mon texte.
C'est quelque chose qu'on va découvrir en lisant le livre. C'est vrai que, est-ce que tu racontes un petit peu aussi, tu fais le récit un petit peu de la manière dont il a pu ramener, parce que c'est pas une arme très discrète. Non, donc, est-ce que c'était en voiture un peu planquée? Enfin, sans nous en dire trop, voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses comme ça qui nous donneraient envie d'aller?
Non, voilà, okay. Il l'a décrite, donc okay. Évidemment, en plusieurs parties, l'arme, sur la banquette arrière, quoi. Et puis, ils étaient deux, et puis, bah, voilà, elle d'accord. était sous les couvertures, et puis,
et c'est passé.
Ils sont rentrés comme ça. Et bah, okay. ouais.
Et puis, mais est-ce que ça a été, parce que bon, voilà, si on s'adresse à des gens qui sont quand même, eux aussi assez sérieux et dont on sait qu'ils sont capables de tout, comme les cellules combattantes communistes, la RAF, la RAF, ça également, tu le racontes un petit peu, ou se confie-t-il un petit peu sur quels rapports ont été mis en place? Est-ce que, on donne, j'imagine qu'on donne pas une arme à n'importe qui. Donc, ces entités ont certainement, se sont certainement informées. Alors, enfin, comment ça s'est un petit peu passé?
Il y a des personnes qui ont fait de la prison, hein, en préventive en Suisse, hein, pendant 3 mois, parce qu'il y a eu une enquête du ministère public de la Confédération quand même, hein. Ouais. C'est aller loin, hein. Et effectivement, dans le texte, je raconte évidemment en quelques mots quoi, qui sont le retrait fraction et puis les brigades rouges en Italie, tu vois. Et puis je raconte un petit peu cette partie-là aussi de l'histoire récente. Que te dire? Oui, il y a eu en fait des écoutes que la sauf alors le service secret de l'Allemagne de l'Est à l'époque a envoyé les enregistrements, je crois, au ministère public de mémoire. Mm-hmm. Et puis effectivement, quoi, ils ont eu chaud là.
Ah bah, donc la Stasi qui a communiqué avec le ministère public en Suisse
qui avait enregistré les enfin voilà quoi les
c'est génial
quelques rencontres quoi et puis qui avait informé ouais.
Ça a dû être quand même un bon moment pour toi un peu cette enquête policière sur une question quelque part qui a trait à de l'espionnage et à du contre-espionnage.
Ah bah c'est complètement il y a un temps présent d'ailleurs qui est très bien là-dessus qui est sorti en 96 et qui raconte cette histoire là ouais.
Alors on le rappelle, et puis Pierre ensuite a une question, le livre c'est « Caïm Nissim, un écologiste insoumis », paru donc aux éditions Slatkin à Genève en 2018. Pierre.
Moi j'avais 20 ans en 82, et évidemment j'étais militant, moi j'étais peut-être encore plus dans le doute que lui, donc j'étais pas un militant actif, ni pour l'un ni pour l'autre, je faisais des études de biologie. Mais est-ce qu'il a été conscient de l'impact que son geste a eu sur cette jeunesse des années 80 qui découvrait tout soudain qu'on était comme les autres finalement, que nous aussi on avait nos terroristes entre guillemets, que nous aussi on pouvait obtenir des choses par l'action directe, parce que dans ces années-là, bah évidemment on regardait ce qui pouvait se passer à gauche et à droite, mais la Suisse c'était vraiment très 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 calme, personne ne pensait qu'on pouvait avoir un activisme actif sur ces sujets-là. Comment je lui pense... il a est-ce qu'il a perçu qu'il avait quand même changé un peu les paradigmes de l'activisme en Suisse?
En tout cas, on a parlé, si tu veux, des nombreuses bataille en fait auquel il a participé, tu vois, les occupations de sites de construction de centrales, que ce soit Verbois, donc le projet de centrale à Verbois, le projet de centrale Kaiserhaus, et en fait les il y a quand même si tu prends le bilan de ces actions, la majorité des batailles, en tout cas par rapport au projet de centrale nucléaire, majorité je sais pas, mais une bonne partie sont des victoires. Et en fait, il a participé à une histoire de militantisme récent qui a été franchement assez alors très bagarreur, et puis en même temps qui a pour une partie gagné. Ils ont bien compris que même Super Phénix avec un État français où l'énergie est hyper centralisée quoi, et puis il n'y a pas vraiment de débat démocratique sur l'énergie en France, où il y en avait en tout cas pas du tout, ou très peu à l'époque, quoi. C'était les ingénieurs qui sortaient des grandes écoles, qui planifiaient la production, voilà, quoi, de l'énergie dans le pays. Et puis, ils ont bien compris qu'à un certain moment donné, en fait, ce projet, il allait mourir de lui-même. Et que certes, il y avait eu un grand nombre de mobilisations, qui a d'ailleurs, pour une part, généré la mort de Michel Vitalon. Donc, Vital Michalon, je crois. Je me souviens plus exactement du nom. Il faut que je vérifie. Et en fait, ben effectivement, ils ont pas mal de victoires, quoi, du point de vue antinucléaire. Donc, je sais pas s'il a eu conscience des consciences qu'il a éventuellement marquées. Par contre, il avait conscience qu'il participait à un mouvement qui réalisait de réelles batailles et qui parfois était victorieux, sortait victorieux de ces batailles. Ce qui est pas du tout évident, parce que moi j'avais 20 ans au moment des mouvements altermondialistes. Alors nous, à chaque fois, on se prenait des branlées, mais alors impressionnante, quoi. C'était rude, c'était un autre contexte.
Il a installé un rapport de force.
Absolument. Oui. Il a participé à installer un rapport de force. Oui. Évidemment, c'était des milliers de gens, c'est pas du tout. Enfin, voilà, lui, il a participé à tout ça, mais c'était du coup fédérateur au sens que, ben, il y a eu des batailles vraiment intéressantes et victorieuses. Et puis, il a, je pense, quand même eu conscience. Ça m'est venu à l'esprit quand tu m'as posé la question, Pierre, mais d'avoir quelque part marqué les esprits aussi au moment où il avoue que c'est lui l'auteur de cet attentat, 20 ans après, parce qu'alors là, vraiment, il se rend compte que il y a plein de gens qu'il connaît depuis des années qui lui adressent pas la parole. Enfin voilà, quoi. Il vit à ce moment-là un tournant dans sa vie, quoi. Clairement.
En tout cas, dans l'esprit... Pardon, Pierre, tu voulais compléter ?
Non.
Alors, en tout cas, dans l'esprit, on peut dire qu'actuellement... Alors, si on va en Allemagne avec le mouvement Ende Gelände et notamment la forêt de Heimbach, clairement, là, également, le rapport de force, il est installé et ça dépote et ça change la donne pour de vrai. Mmh. Et puis, j'aurais envie de dire, alors, et même d'ailleurs en Suisse, que dans l'esprit, eh bien, les ZAD, les zones à défendre, ont pris l'héritage, d'une certaine manière, de cette action directe et de cette opposition même physique au monde qui nous encercle et qui nous assiège. Et puis, ça me permet de saluer les camarades de la ZAD de la Colline avec lesquels on a partagé des propos tout récemment et puis que l'on va publier, qui sont en danger de se faire expulser maintenant, mais qui sont là et qui, quoi qu'il en soit, eh bien, vont tenter de rester le plus possible. Donc, on sent que dans l'esprit, eh bien, il fait partie de ces briques qui façonnent cette... ces groupes de gens, cette énergie qui actuellement eh bien, habite des très jeunes même.
Tout à fait.
Ouais.
Alors, et ça commence, oui. Juste une dernière anecdote d'ailleurs que je raconte, oui. Ça commence en tout premier par les arbres des minoteries vont être abattus pour y construire des logements, on va monter aux arbres, on ne veut pas qu'ils soient abattus.
Ouais.
Et ça commence comme ça.
Ouais, c'est incroyable. Quoi. Alors, on va arriver doucement au terme de cet entretien. Cléo, je te remercie déjà énormément d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. On va finir par rappeler encore le livre et puis vraiment inviter tout le monde à se le procurer. J'aurais voulu encore deux petites choses, si tu veux bien. Une, c'est qu'on parle en quelques mots justement du collectif du Ramoneur, parce que là, on peut également, je ne sais pas si tu me démentiras ou que tu confirmeras, mais on pourrait presque parler d'un précurseur des lanceurs d'alerte, d'une certaine manière.
Tout à fait.
Voilà, je te laisserai en dire quelques mots. Et ouais. Puis, on en terminerait par son rapport à la mort, parce que là également, c'est quelque chose de relativement singulier. Puis, il y a une forme de lucidité et quelque part même, peut-être, tu nous le diras, d'apaisement d'une vie passée à s'engager. Et puis, du moment où on se dit, maintenant, mon temps est passé, est fini, je plie bagage, quoi. Est-ce que tu serais d'accord de parler déjà un petit peu du collectif du Ramoneur ?
Ouais, alors écoute, la période du Ramoneur, c'est quand même assez fou, parce que c'est les années 90, et puis ça dure une dizaine d'années. De nouveau, avec un petit groupe, ils se disent, il est passé en fait à ce moment-là de la physique à l'informatique, en fait, comme pas mal de profils ingénieurs. Il a développé des activités dans le domaine de l'informatique, puis du coup, il touche un peu, quoi. ils disent quand même que du coup, ce serait pas mal de trouver des informations éventuellement compromettantes sur telle ou telle personne, etc. Et puis, ils se disent qu'ils pourraient sortir un petit journal dès le moment où ils ont, en fait, amassé et ainsi l'information intéressante et rendre publiques ces informations-là. Donc, leur cible, à ce moment-là, c'est les trafiquants d'armes, figure-toi.
On est en Suisse, hein, où la culture du secret a cours, il faut quand même bien le dire, quoi.
Et donc, l'idée du ramoneur, c'est d'aller ramener, quoi. Mm-hmm. Et puis, il se fixe un peu des personnes, disons, dont ils ont envie de connaître mieux l'activité, on dira. Alors, d'abord, ils font des écoutes téléphoniques, et puis après, ils interceptent des fax, et puis ils hésitent à éventuellement aller visiter les locaux du cabinet d'avocat. Tu vois.
Ouais,
bon.
Ouais.
Et puis, de fil en aiguille, ce qui est intéressant dans cette histoire de ramoneur, c'est quand même qu'à l'époque, il est député au Grand Conseil Genevois, donc le Parlement de la région. Et puis, il connaît, la plupart des gens qui font cette république à ce moment-là. Mmh. Et il distribue le ramoneur à ces gens-là.
C'est incroyable.
Et puis parfois, les histoires, elles touchent évidemment des gens de ce Parlement, tu vois. Et alors, il y a des personnes qui sont outrées, ça fait des déclarations pas possibles, ça échauffe, etc., etc. Et lui, l'idée, c'est d'éventuellement réussir à prouver des transactions illicites. Il arrive quand même à deux, trois coups intéressants, que la presse relate. Tout ça est abondamment décrit et raconté aussi dans le texte. Le ramoneur, c'est effectivement on va faire justice, quoi. Ils finissent quand même par collaborer avec un magistrat du ministère public. Alors, pas de la Confédération, mais du canton. Mmh. C'est effectivement un peu le côté lanceur d'alerte,
WikiLeaks, quoi, d'une certaine manière, c'est WikiLeaks en Suisse, à Genève plus particulièrement. Trouve que c'est génial, quoi. Enfin, il a vraiment fait feu de toutes parts, hein, on peut dire.
Oh, tout à fait. Être absolument assez fou. Aussi, moi, je trouve, dans l'accumulation, si tu veux, de ces différentes vies et de ces différentes expériences. Parce que très souvent, on connaît des gens parfois très militants un temps, puis après, ils s'institutionnalisent en vivant le travail de parlement. Et ben, évidemment que la militance se calme. Et puis, en fait, lui, pas du tout, quoi. Mmh. Il est toujours aussi militant en étant député et il est toujours dans l'action clandestine alors qu'il est député et militant.
Ouais, c'est ça. Il y a une contiguïté, une simultanéité de vouloir changer de l'intérieur et de l'extérieur qui est absolument fantastique, quoi.
Et ça, c'est assez dingue quand même.
Ça dit pour toi. Est-ce que pour toi, il y a un avant et un après biographie de Caïm Nissim? Ça t'a changé d'une certaine manière. Enfin, est-ce que ça t'a, toi-même, tu es engagé, on l'a dit. Est-ce que ça te conforte? Est-ce que ça te donne des idées, des désirs? Comment c'est?
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu écris une vie telle que celle de Caïm, tu vois tu vois à quoi ça sert de s'engager, quoi.
Ouais.
Il y a eu des événements et puis des conséquences de ce à quoi il a participé qui ont changé l'histoire locale, il faut le dire, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, je dirais, il y a peut-être eu un avant et un après Caïm, c'est-à-dire avant que je le rencontre et après que je le rencontre, tu vois. Après, la biographie, c'est un écrit sur sa vie. Mais il y a surtout effectivement la rencontre d'une personne hors du commun, tout à fait singulière, quoi. Et puis qui a vraiment été loin dans la réflexion de notre sens sur la terre, et puis de ouais, de comment pourrait-on quelque part améliorer notre sort et comment y arriver. Mmh. Voilà.
Ouais. Et absolument. Alors, avant que tu nous dises quelques mots du décès de Karim Nissim, j'aurais voulu savoir si tu as dû taire certains éléments, certaines confidences qu'il t'a faites dans ton ouvrage, ou est-ce que tu as été le plus exhaustif possible? Ou est-ce que tu as dû peut-être ne pas nommer certaines personnes?
Non, il était très clair. Excuse-moi, je te coupe.
Non,
mais,
c'était,
mais,
j'avais fini.
J'ai fait certaines demandes d'entretien qui m'ont été refusées. Là, j'ai voulu m'entretenir avec des personnes sur Caïm qui ne voulaient pas me parler de lui. Bon, ça quand même. Hein, c'est, voilà. Ensuite, il était très clair lui-même sur ce qu'il voulait et pouvait et souhaitait me dire et ce qu'il ne voulait pas me dire. Je te cache pas que au moment où on parlait autour, évidemment, du tube et puis de la, voilà l'organisation de l'attentat contre Crémalville, c'est des moments qui sont quand même. Je veux dire, moi, je me suis quand même posé la question une fois ou deux s'il ne gardait pas des trucs qui étaient plus graves. Et ça, moi, j'ai eu à un moment donné une vraie question personnelle liée à ce texte en me disant il n'est pas question que j'écrive la vie de quelqu'un qui a atteint la ouais absolument tu vois
qui a dépassé la limite quoi
exactement alors il se trouve que oui il y a eu des déprédations matérielles assez importantes il a participé à beaucoup de sabotage mais il a jamais atteint la vie et ça à nouveau c'est vraiment une ligne qui me paraît assez fondamentale quoi et bon à partir de là je le connais comme je l'ai connu disons malheureusement au passé pendant quand même assez longtemps j'ai beaucoup parlé avec ses amis ses proches et j'ai finalement eu assez confiance quand même tu vois et puis ce qu'on a hésité à mettre dans le texte et qu'on n'a pas mis figure-toi c'est ces fiches de police parce que
bien non
c'était quand même ce qui était quand même passionnant, bah oui, c'est qu'évidemment, il a été fiché.
Eh oui.
Et puis, tu n'es pas sans savoir que tout un chacun peut demander si les fiches ont été rédigées sur lui ou elle. Et donc, moi, j'ai demandé à Caïm qu'il demande ses fiches à la Confédération.
Ah, ça devait être intéressant, ça.
Effectivement, il a reçu, on a reçu du coup, et puis moi j'ai dépouillé ça, mais avec joie, tu peux pas savoir, c'était passionnant. Voilà, une vingtaine de pages de filatures par la police à l'époque.
Tu as mis en annexe les facsimilés.
Alors non, justement, je te cache pas qu'on en a discuté, puis c'était pas possible parce qu'évidemment, il aurait fallu tout caviarder, enfin, en fait, voilà. C'était un travail vraiment, vraiment intéressant.
Ouais, fantastique. En tout cas, ça donne extrêmement envie de lire ce livre. Alors, comment est-ce qu'on se le procure? Et puis après, on va en arriver au décès de Caïm. Mais comment est-ce qu'on se procure ce livre? On l'achète, voilà, il est paru, il est dans toutes les bonnes librairies, on peut le commander. Comment ça se passe?
Écoute, ouais, c'est sympa de poser la question. Je sais pas si on le trouve encore dans des étalages de librairies. Il l'était à sa sortie chez Payot, tu vois, un peu à la librairie du boulevard. Peut-être qu'il est toujours chez Fahrenheit 451, rue Voltaire. Ce serait super. Il y était un temps, en tout cas. On a aussi fait une lecture à la librairie Basta de Chaudron, à Lausanne, exactement. Et donc peut-être que ces librairies un peu spécialisées ou en tout cas un peu thématiques l'ont encore. En tout cas, évidemment, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Évidemment, on peut le trouver aussi et le commander sur le site de slatkin.ch.
As-tu, toi, un site personnellement sur lequel on pourrait aussi un petit peu regarder, effeuiller tout ça?
Mais tout à fait. Écoute, mon site, c'est cleojohnson.org.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps que tu nous as consacré. Alors, on en arrive au dernier moment. On l'a dit. Karim Nissim décide de mourir le 11 avril 2017 par l'aide au suicide via Exit. Voilà. Quelques mots à ce propos. Est-ce qu'il en, tu as dit déjà qu'il en parlait de manière relativement apaisée? J'imagine qu'il y avait tout de même des moments un petit peu plus compliqués. Enfin voilà, voudrais-tu nous dire comment est-ce que tu l'as accompagné ces derniers moments d'existence?
Ouais, écoute, bon, cette décision, il l'a longuement mûrie, hein. C'était la question d'en finir. C'était une question qu'il a habité pendant facilement les 3-4 dernières années de sa vie, et je dirais à laquelle il a faire participer ses proches. Alors, ça peut paraître un peu fou, et en même temps, c'était un homme malade. À l'époque, il sentait bien que voilà, il était dans une maladie dégénérative, quoi, et que il avait peur en fait de passer le cap où il serait encore dans la capacité à décider pour lui-même. Parce que je sais pas si tu sais, mais exige qu'on on ait une capacité de discernement qui permette de décider en toute liberté, en fait. Donc bon, c'est la question de l'aide au suicide, il l'a beaucoup réfléchi, pondéré, discuté avec ses proches, et en réalité, il a attendu que ses proches comprennent. Alors j'ai trouvé ça évidemment quelque part très courageux et évidemment très triste, parce que il faisait partie des rares personnes qui rendait cette ville assez propice à des rencontres tout à fait improbables, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, on rencontrait Caïn, puis on avait discuté de quelque chose dont on n'aurait jamais même pensé ce jour-là. C'était quelqu'un qui était tout à fait original et inattendu dans la manière dont il habitait son quotidien. Et donc la question du départ, de partir, elle a été longuement réfléchie à nouveau et mûrie, surtout avec ses proches. Moi, je l'écoutais par rapport à ça. Je trouvais pourtant que il avait l'air d'aller assez bien, mais il se sentait en fait décliner peu à peu. Et puis, il aimait pas ça, quoi. Il n'était pas question pour lui de se retrouver dans une situation de dépendance à autrui. Il n'avait pas du tout envie de se voir, je crois, très vieux ou dans le quatrième âge, on peut dire. Donc, c'était finalement assez doux, en fait, comme il l'a amené, parce que c'était attendu, on pouvait s'y préparer, et même si c'était évidemment chargé émotionnellement, c'était quand même assez serein tout ça.
Sais-tu s'il a souhaité laisser une petite note à soit des proches ou disons une sorte d'appel comme ça qu'il aurait lancé à des compagnonnes et des compagnons de route et d'engagement?
Écoute, je crois pas. En tout cas, il a écrit ce texte qui s'appelle Les chemins de la liberté et qui quelque part est, je crois, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bon, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui moi m'a vraiment porté dans toutes ces choses-là, et puis voilà ce qui est important, quoi. Et ce texte, il a eu, je crois, cette fonction-là.
D'accord. Cléo Janssen, merci beaucoup pour tout ceci. Tu nous as livré plein de choses. Ça nous a donné tellement envie de lire ce livre que voilà. Et j'espère que ce sera le cas pour les personnes qui vont nous écouter également. Le livre, on le rappelle, c'est Caïn Nissim, un écologiste insoumis, paru aux éditions Slatkin en 2018. Y aurait-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur lequel on ne t'aurait pas questionné, ou est-ce que selon toi on a été relativement exhaustif?
Non, on a eu une super discussion. Ce que je peux ajouter, c'est que je vous remercie mille fois pour la démarche et pour l'écoute et pour les questions. C'est super de partager ça aussi de vive voix.
Bon, en tout cas, pour nous, ce fut un plaisir, un réel plaisir. Est-ce que toi, il t'arrive encore de temps en temps, maintenant, avec ces quelques années de recul, de sourire en coin, dans la rue, ou à un moment donné, un petit peu inattendu, quand t'es surprise dans ta vie, en disant, ça aurait pu être Caïm, ou en tout cas, cet esprit-là m'habite encore. Tu sais, un petit peu comme ces clins d'œil qu'on fait à la mémoire.
Ah, mais complètement. Ah non, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est pas seulement que je le ressens, mais je le partage, parce que je vois encore pas mal de ses copains et on se le dit parfois, tu vois.
Très bien.
Non, il va rester longtemps avec nous, ça c'est sûr.
Donc il laisse des bons souvenirs également, et de nombreux bons souvenirs. Ça c'est chouette. Pour en terminer complètement, est-ce que tu voudrais d'ores et déjà nous livrer un nom ou en tout cas l'idée d'une prochaine biographie ou ça, pour le moment, c'est en gestation et dans ton intime?
Je vais les garder pour moi. Très mais bien, j'aimerais d'accord. bien...
J'ai essayé, hein.
J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, mais je ne peux pas.
D'accord, mais est-ce que peut-être que, et puis après j'arrête d'insister parce que c'est pas sympa non plus, mais est-ce que cela fera partie, parce que voilà, des biographes, il y en a tout de même, mais des biographies engagées, c'est peut-être moins, voilà, c'est peut-être plus rare. Est-ce que ça, ce serait un des créneaux, disons, vers lesquels tu pourrais, pourquoi pas, te diriger?
Mais absolument. Et d'ailleurs, si tu as des personnes auxquelles tu penses, bah, je suis preneuse, t'hésite pas.
Ah ouais, très bien. Bon, alors très bien, on reviendra vers toi et on te dira. Écoute, à moins que Pierre, tu aies encore quelque chose à nous dire.
Moi j'ai juste un petit partage à faire avec vous, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ce Caïm, il m'a marqué, encore une fois, et comme plein d'autres, hein. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, mais il y a un taxiste qui lui ressemblait beaucoup.
Incroyable. Ah non, mais c'est bien.
Et moi, je la connais pendant très longtemps, il m'arrivait de prendre le taxi, de le croiser, ce gars. Et j'étais dans son taxi et je n'osais jamais lui demander. Pour moi, c'était clair que c'était lui. Il avait la même tête et tout.
Aurait-il eu encore une autre vie cachée?
C'est ce que j'allais dire. Celle-là, il ne l'a pas raconté.
Non, mais ce n'était pas lui, évidemment, ce n'était pas lui. Puis, et en fait, je voulais simplement lui demander comment on passait à l'acte. Parce que pour moi qui suis non-violent absolu, jamais j'aurais fait ça. Mais je me disais, j'avais juste envie de lui dire, mais comment tu as pu prendre la première requête et la tirer? Enfin, c'est... Et donc, ouais. J'ai attendu ça très longtemps. Et un jour, ce taxiste lui a posé la question et puis il m'a dit que c'était pas lui, évidemment.
Oh, dommage.
Mais je l'ai croisé
Quel
plus
dommage.
Tard. Je l'ai croisé plus tard aux grottes, je pense sur la fin de sa vie, j'avoue. Hein. Ouais. Et j'ai pas osé lui parler. Enfin, j'ai pas osé lui parler de tout ça, quoi.
On a beaucoup thématisé l'action, en fait, dans le texte. Tu vas trouver plein d'éléments de réponse dans le texte.
Très bien.
Ouais, juste une chose quand même, si je peux me permettre, à mon avis, c'est quand même important de le mentionner, à laquelle je pense, c'est Noé 21, quand même.
Ah oui, nom de bleu, j'ai oublié
complètement. On n'a pas du tout parlé de Noé 21, mais c'est vrai que c'est peut-être, tu vois, même au-delà du Parlement, c'est peut-être encore l'activité la plus... comment dire, institutionnel qu'il a réalisé, parce que 2003, il en a ras-le-bol, justement, il arrête le Parlement, il en a marre, il y a une sorte de besoin de renouveau comme ça du côté de son engagement, justement. Et puis, gentiment mais sûrement, il se met à bosser sur le projet d'une ONG qui thématise les questions climat à l'époque, hein, les rapports du GIEC, les enjeux d'augmentation de la température, les risques que ça fait encourir sur la population, hein, etc., etc. Et en fait, ils ont quand même fait un travail à nouveau extrêmement précurseur sur toute une série d'éléments liés au climat qui aujourd'hui est sur le devant de la scène plus que jamais.
Oui.
Tu vois, donc.
Oui.
Voilà, ça me semblait important quand même de terminer sur la note.
Absolument, et c'est fantastique que tu l'aies dit, parce que je l'ai effectivement lu, je me l'étais mémorisé, mais je ne l'ai pas retranscrit dans mes petites questions. Merci beaucoup. Ça nous permet également de dire que nous sommes à l'aune, ce sera le 11 mars du 10e anniversaire de Fukushima. Et donc, on a une pensée pour toutes les personnes qui ont été directement touchées, et indirectement également, et on va essayer de faire un sujet là autour. Voilà, est-ce qu'on s'arrête là pour ce soir?
Ça marche.
Très bien. Cléo Jensen, merci beaucoup. Et puis, eh bien, on espère se retrouver pour de futures aventures. Merci à toi.
Avec plaisir. Et puis, tout de bon.
Merci.
Merci, bye bye.
www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute.